Bah, depuis le début du confinement, il s'est passé à peu près ce qui s'est passé dans l'ensemble des communes de la Loire. Nous avions quelque peu anticipé l'annonce d'un confinement parce que, au vu des éléments qui nous étaient fournis, on avait déjà commencé à activer le plan communal de sauvegarde. Donc c'est le plan qui s'applique en cas de difficultés extrêmes sur la commune, alors en particulier sur des événements type incendie, inondation, etc., et qu'on a adapté immédiatement donc sur la problématique Covid-19. Ce qui veut dire qu'on a travaillé dans plusieurs domaines. D'abord sur le fonctionnement des services municipaux, dans la mesure où tout de suite on a imaginé le fait que cette épidémie ne devait pas bloquer le fonctionnement du service public et qu'il fallait à la fois qu'on mette en situation de protection nos collaborateurs et surtout leur permettre d'être toujours à disposition de la population. Donc on a des numéros d'appel permanents sur la commune qui permettent d'orienter en fonction des demandes les gens. Alors ça peut être un problème d'approvisionnement pour une personne âgée dépendante, ça peut être un problème de déplacement en direction d'une pharmacie, d'un rendez-vous médical, etc. pour d'autres personnes. Et puis continuer à traiter les actes d'état civil parce que c'est quand même important. Alors c'est un peu triste à dire, mais on a par exemple pas mal de décès, pas nécessairement tous liés au Covid-19, mais l'état civil fonctionne également toujours en télétravail. Et donc nos collaborateurs sont présents à la fois pour ceux qui ont à gérer le contact avec les citoyens dans nos actes administratifs et également sur le terrain où nous avons mis en place des astreintes. Mais bien entendu, ces astreintes sont adaptées à la situation puisque de même que le public est astreint au confinement, on ne peut pas se permettre d'avoir toutes nos équipes, par exemple, de services techniques regroupées dans le local des services techniques. Donc on a des astreintes limitées en nombre de personnel avec un turnover de nos personnes pour éviter justement toute contamination et leur permettre d'assurer leur fonction à destination de l'entretien de la voirie, du nettoyage des espaces publics, etc. Donc tout s'est mis en place. Et puis on a, sur un autre volet, immédiatement activé notre plan de suivi des personnes les plus en difficulté, personnes âgées, personnes dépendantes, personnes atteintes de maladies ou sous astreinte médicale permanente, à travers un fichier que nous avions, nous, déjà depuis l'épisode de canicule de 2008. Et donc nous avons immédiatement contacté toutes ces personnes qui nous semblaient le plus en difficulté pour leur proposer un panel de services. Le plus important pour l'instant, celui que nous avons doublé en termes de quantité, c'est le portage de repas à domicile, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à se déplacer ou pouvoir aller faire leurs courses. Donc on a mis en place un service de portage de repas à domicile qui a pratiquement doublé sa capacité. Et puis on a des contacts permanents avec les personnes en situation les plus fragiles. Et puis dans d'autres domaines, on a mis en place en collaboration avec une personne du secteur au cyberespace la fabrication de visières pour permettre effectivement à celles et ceux qui dans leur situation professionnelle, infirmière, EHPAD, etc., ont des difficultés en termes de protection de leur fournir du matériel. Et on n'a pas oublié d'autres domaines, comme le volet culturel par exemple, où aujourd'hui le conservatoire de musique fonctionne via de la vidéo, des enseignements peuvent encore être dispensés. Ce qu'on essaye de garder, c'est aussi le lien social qui nous paraît important avec l'ensemble de la population. Et puis pour le reste, eh bien, on s'adapte à tout ce qui est en train de se mettre en place. Alors, sur les masques en particulier, bien entendu, j'étais en visioconférence avec le président de la région. Il y a quelques jours, on a bien noté la démarche qui était celle de la région de fournir un masque à chaque habitant. Le président a bien exprimé que ce seraient les collectivités qui auraient à le faire. Donc on a positionné Rive-de-Gier à la fois sur une demande de masques et bien entendu sur l'organisation qu'on a déjà un peu anticipée de distribution de ces masques dès qu'on les aura. Et on a fait la même chose avec Saint-Étienne Métropole, puisque Métropole va passer une commande mutualisée de masques pour pouvoir, au moment du démarrage du déconfinement, alimenter l'ensemble de la population. Donc là également, nous nous sommes associés à cette commande et bien entendu, nous procéderons à la distribution dès que nous aurons reçu les masques que nous avons commandés. Et puis dans tous les autres domaines, on essaye d'être présent le plus possible, à l'écoute des gens, de leurs demandes, avec une permanence téléphonique qui permet, alors peut-être pas de résoudre tous les problèmes, mais au moins de garder le contact et le lien social. Et puis en ce moment, j'ai j'étais en train d'en discuter avec un de mes collègues à la mairie. On est dans la même situation que les autres collectivités sur les annonces faites au niveau national. Une annonce faite le lundi, démentie le mardi, reprise le mercredi, modifiée le jeudi, en particulier sur le volet scolaire, reprise des écoles. Et on est dans l'expectative la plus totale. Nous, nos services pourraient être mobilisés, bien entendu, par anticipation pour mettre à disposition des équipements scolaires avec une désinfection totale des locaux, avec une préparation, mais personne ne maîtrise le nombre d'enfants, personne ne maîtrise le fonctionnement, personne ne maîtrise l'existence d'une cantine, pas d'une cantine. D'autre part, on ne connaît pas le positionnement de l'éducation nationale. Il semblerait que tout le monde ne soit pas dans une phase d'acceptation de reprise de l'éducation nationale, ce qui fait qu'on est dans l'attente, comme d'habitude, avec des annonces gouvernementales brouillées qui nous annoncent tout et son contraire en quelques jours. Voilà, sinon je pense que c'est pas spécifique à Rive-de-Gier, hein, c'est le cas pour l'ensemble des collectivités de France et bien entendu du département de la Loire et du territoire métropolitain. Avec également la programmation le 30 avril d'un conseil municipal, puisque par visioconférence ou présence de ceux qui n'auraient pas la capacité à pouvoir s'équiper du matériel nécessaire pour la visioconférence, mais dans le cadre du respect des règles de confinement, dont la présence physique de quelques élus en salle du conseil, et le reste se tenant par visioconférence. Voilà, donc dans tous les domaines, on est présent, on essaye de conserver le lien social, sachant que Rive-de-Gier, comme pas mal de communes du département de la Loire, c'est pas nécessairement une commune avec beaucoup de maisons individuelles, avec beaucoup de propriétés individuelles, et qu'on sait que le confinement est très très lourd à supporter pour des gens qui vivent dans des conditions d'habitat à la fois sur des espaces restreints et dans des grands ensembles où on sait que manifestement il est plus dur de rester confiné lorsqu'on n'a pas d'espace extérieur avec des enfants et une vie familiale qui peut parfois être complexe lorsque les conditions ne sont pas celles qu'on peut trouver sur d'autres communes avec un habitat plus diffus et plus individuel.
Alors, oui.
Voilà en gros la situation sur Rive-de-Gier au jour où je vous parle aujourd'hui.
Et ben, ce point est complet. Effectivement, la date du 11 mai a été avancée. Une date prise pour certains comme le moment du déconfinement. C'est pas tout à fait ça. Comment on communique avec la population et notamment peut-être les commerçants aussi qui vont éventuellement réouvrir à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une communication spécifique et des informations spécifiques produites par la municipalité de Rive-de-Gier ?
Alors, sur le volet scolaire, pour l'instant, on ne fait pas de communication particulière dans la mesure où je vous ai dit. Nous, s'il fallait reprendre, on serait en capacité de reprendre à la fois sur le volet technique, c'est-à-dire la mise à disposition des équipements, le volet scolaire. On pourrait mobiliser effectivement notre personnel. Le problème, c'est qu'on est dans l'expectative la plus totale. Avec l'annonce qui a été faite, les gens auront la possibilité ou non de remettre leurs enfants. On est dans l'expectative, je vous disais, sur la problématique de la restauration scolaire. Moi, je vois pas bien comment on pourrait assumer une restauration scolaire d'enfants scolarisés dans des équipements communaux, alors qu'on interdit l'activité d'hôtellerie-restauration. Donc il faut m'expliquer comment, dans ce pays, on pourrait avoir deux façons de gérer. Ensuite, sur le volet commerçant, on a tenu, pas plus tard qu'avant-hier, une réunion avec l'Union des commerçants et les représentants des commerçants de Rive-de-Gier, avec un triple but. Le premier, c'est de les informer sur l'ensemble des aides qui ont été mises à disposition à la fois par l'État, par la région, le complément d'information apporté par Saint-Étienne Métropole qui s'est associé donc au fonds mis en place au niveau régional pour aider nos commerçants. Donc le premier but de cette réunion, c'était donner les informations à tout le monde pour que les gens sachent effectivement ce à quoi ils peuvent prétendre dans cette période complexe. Le deuxième objectif, c'était entre guillemets de leur dire que bien entendu, dans le cadre du déconfinement, on serait à leur côté sur des aspects plus pratiques. Par exemple, bien entendu, les commerçants seraient comme l'ensemble de la population dotés de masques en termes de protection. Pour les professions les plus exposées à travers leur activité et leur proximité avec les clients, comme les esthéticiennes, les coiffeurs, etc., on se mettra en capacité de leur fournir des visières de protection pour leur permettre d'exercer dans les meilleures conditions possibles. On leur a également fait la proposition, avec nos services techniques, de voir comment on pourrait faire respecter les règles de confinement avec des indications, par exemple au sol, etc., pour que les clients n'aient pas le sentiment que tout est oublié suite au début du déconfinement, et donc, par exemple, du marquage au sol, etc., qui pourrait être fait sur les espaces publics à l'entrée des espaces commerciaux, en collaboration avec eux, parce que ça leur permettrait effectivement de pouvoir se placer dans le cadre du respect après des confinements, mais des gestes barrières qui sont quand même indispensables. Et puis, surtout, travailler, j'allais dire, sur l'avenir, en particulier sur une plateforme numérique qui pourrait se constituer assez rapidement. Et on a pris pour ça la page du Conseil départemental de la Loire, où effectivement, on pourrait mettre en place une plateforme numérique à destination des commerçants qui leur permettrait, dans l'avenir, après montage du dossier technique, de voir celles et ceux qui pourraient être intéressés de façon à ce qu'on, et on le voit bien aujourd'hui, cette crise, elle a eu beaucoup d'effets négatifs, mais elle a aussi changé les modes de consommation. Les commerçants, par exemple, se sont aperçus que la fermeture des marchés et le maintien des marchés de producteurs qui s'étaient organisés en drive faisait qu'aujourd'hui les habitudes de consommation des gens avaient changé, que probablement dans l'avenir ce mode de fonctionnement pourrait aussi s'adapter au commerce local avec des commandes placées sur internet, des possibilités de récupérer entre guillemets sans déplacement, etc. Ouais. Donc c'est toutes les choses qu'on est en train de travailler avec eux dans le cadre de la mise en place de la sortie à la fois du déconfinement mais aussi de la prévision de l'avenir. Voilà, donc ça c'est la réunion qui s'est tenue avec nos commerçants. Donc, je crois que c'était parmi les premiers du territoire métropolitain à rencontrer leurs élus, puisqu'il y avait une démarche collective des unions commerciales, mais qui n'avait pas toutes les informations au moment où on en a parlé. Mais je pense que depuis, l'info a dû être distribuée sur l'ensemble du territoire métropolitain, parce qu'on est, comme beaucoup de communes urbaines, détentrices d'un certain nombre d'activités commerciales importantes, et puis surtout des petits commerces, donc des gens qui, sans chiffre d'affaires, bien entendu, n'ont pas de salaire, ont des difficultés à payer leurs charges, et à maintenir, entre guillemets, une situation qui va s'annoncer compliquée au moment de la reprise. Et en particulier, le positionnement que moi j'ai proposé à Gaël Cadriot et qu'il a plutôt retenu, vous savez qu'il y a eu au niveau national et gouvernemental une demande d'exonération de charges pour les secteurs d'activité, hôtellerie, restauration, tourisme, etc. Mmh. Et on a pensé que le report des charges pour les autres activités commerciales, c'était pas non plus quelque chose de très facile pour eux, et qu'il fallait également demander l'annulation de ces charges pour les autres secteurs d'activité qui ont été au même titre que l'hôtellerie, restauration, tourisme touchés, puisque c'est zéro activité, zéro chiffre d'affaires, et que il n'y a pas de raison que certains soient traités avec une exonération et d'autres un report de charges. Voilà, je leur ai expliqué tout ce qui s'est mis en place au niveau métropolitain sur le territoire, et puis maintenant, on continue à travailler avec eux et à préparer avec eux aussi la sortie de ce confinement.
Alors l'avenir, c'est les vacances d'été qui arrivent. Alors on en parle beaucoup dans les médias. Faut-il réserver ici ou là? On ne sait pas, mais il y a également une partie de la population qui ne part pas en vacances, qui travaille aussi l'été s'il le peut. Et puis il y a des enfants aussi, des enfants qui avaient comme habitude d'aller dans des centres de loisirs, des associations. Est-ce qu'on en sait mieux? Est-ce que là aussi vous avez des discussions avec les différents centres sociaux de la ville, et comment on imagine les deux mois d'été à venir de juillet et août?
Alors, la situation de la ville, elle est. Alors, je ne sais pas comment c'est sur l'ensemble du territoire. Nous, on a deux modes de fonctionnement. On a l'appui sur les structures classiques, c'est-à-dire centres sociaux, maisons des jeunes, etc., qui sont nos partenaires sur les opérations été, mais pas que les grandes vacances d'été, sur l'ensemble des vacances de l'année scolaire. Et une autre partie qui est gérée directement par les collectivités locales, donc par la ville de Rive-de-Gier. Sur cette partie-là, nous, on est capable, entre guillemets, de mettre en place un certain nombre de choses. Sur les autres, des contacts permanents sont tenus avec les structures, à l'exception d'une qui est totalement fermée, c'est le centre social Armand Lanoux du quartier du Grand Pont. Mmh. Mais pour les autres, effectivement, il y a des contacts qui sont pris avec la même interrogation que celle de la problématique scolaire, c'est qu'aura-t-on le droit de faire, de ne pas faire? Est-ce qu'on pourra regrouper des enfants, etc., sur des activités? Est-ce que nous serons toujours dans des règles liées au respect des gestes barrières, etc., Parce que vous comprenez bien qu'une activité d'enfant l'été, je prends l'exemple par exemple de les emmener au lac des Sapins, on ne peut pas demander aux enfants de garder toujours 1 mètre de distance entre eux ou de respecter ces gestes barrières, mais si la sortie du confinement nous impose ça, il faut également qu'on le prévoie. Donc sur la partie municipale, nous on est tout à fait en capacité de prévoir la mise en place d'un système, et pour le reste on discute avec les structures centres sociaux, MJC, qui sont dans la même expectative que nous, hein. On attend les directives nationales, mais sinon on est en capacité de faire des propositions assez rapidement pour maintenir une activité et une vie sociale pour les enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Et puis après, j'avais posé la question existentielle, est-ce que vous pensez qu'on aura l'autorisation de partir en vacances cet été et dans quelles conditions? Quand j'entends dire que le déconfinement pourrait se faire par région, qu'il y a des secteurs sans lesquels, pour l'instant, il n'est pas question de toucher au déconfinement. Je disais l'autre jour que la région PACA fait partie des régions les plus touchées par l'épidémie. Alors la région PACA, c'est par destination la région la plus fréquentée l'été. Si la région PACA n'est pas déconfinée pour les vacances, je vois pas bien comment les gens pourraient partir en vacances sur la région PACA. Voilà toutes les questions qui se posent aujourd'hui et pour lesquelles on a effectivement besoin d'avoir des réponses. Le problème, c'est qu'on est dans un pays complexe où on veut donner des responsabilités aux collectivités locales et en même temps tout est décidé au niveau national. Moi, je peux vous dire que sur la problématique des masques, par exemple, la position prise par la région, par métropole, etc., elle est beaucoup plus simple et plus pratique que celle du gouvernement qui annonce tous les jours qu'on va distribuer les masques, en sachant que pour l'instant, on ne sait pas quand on les aura. Et je peux vous parler de vécu. J'étais hier dans un EHPAD de Rive-de-Gier qui n'a toujours pas ses dotations, ni en masque, ni en visière de protection, ni en surblouse. Donc moi, les annonces, les effets d'annonce, etc., soit on donne aux collectivités locales les moyens d'agir, il y a des choses qu'on sait faire. Moi, je sais mettre en place avec nos services, avec mes élus, avec l'ensemble des personnes, une rentrée scolaire. Mais pour faire une rentrée scolaire, il faut qu'on me donne le cadre dans lequel elle se fait et pas avoir des annonces du type ah « ben, ceux qui veulent mettre leurs enfants les mettent, ceux qui veulent pas les mettre, les mettent pas ». Savoir si on peut faire de la restauration collective ou pas collective, moi, je sais pas faire ça.
Oui,
Donc,
encore.
il faut simplement qu'on ait des directives qui soient claires, nettes et précises. Mais j'ai l'impression que depuis le début de cette crise, on navigue à vue au niveau national, avec des effets d'annonce d'un côté « vous inquiétez pas, vous allez voir que le 10-11 mai tout va changer ». Le lendemain, un autre ministre vient dire attention, le sport n'est pas prioritaire, attention sur la restauration collective. Voilà toute la problématique de nos collectivités, c'est de gérer dans un cadre où l'État est censé nous donner le cadre, mais pour l'instant on n'a pas le cadre. Donc on est prêt à s'adapter. Le seul problème, c'est que pour s'adapter, il faut savoir à quoi nous allons devoir nous adapter. Je pense que ce n'est pas une position partagée par le seul maire de Rive-de-Gier, et je connais plein de mes collègues qui sont dans la même expectative que moi aujourd'hui.
Effectivement. Alors, pour terminer, peut-être, vous évoquiez tout à l'heure la réunion que vous avez eue avec le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, quant à la distribution de masques. Des annonces ont été faites au sein de la région quant à la production de masques pour la totalité de la population de notre région par des entreprises locales. Est-ce que là, on a une date d'arrivée, finalement, de ces masques et puis du début de la distribution?
Alors, la région a passé une commande de 9 millions de masques à destination de l'ensemble de la population. Elle a travaillé par territoire, donc en particulier d'abord sur la qualité des masques. Tous les masques qui sont distribués sont des masques homologués, qui ont reçu l'agrément. Lavables entre 30 et 50 fois. Ils sont en train de faire des tests sur les exemplaires qu'ils ont passés en commande auprès des structures. Et en particulier, on sait que sur la Loire, les tissages de Charlieu, Tuanne, etc., un certain nombre d'entreprises locales de la Loire seront fournisseurs. Comme je pense sur le territoire de l'Ain, du Rhône, de l'Isère, etc., la région va prioriser ses fabricants et ses entreprises. Ensuite, oui, tout est normalement mis en place pour qu'on puisse être approvisionné avant le 11 mai, en sachant que la distribution risque de prendre peut-être 2-3 jours, parce que autant sur une petite commune de 1000 habitants, je veux dire, il est pas très compliqué de distribuer 1000 masques, autant dans des grandes collectivités, Saint-Étienne, Saint-Chamond, Roanne, à mode plus modeste échelle, Rive-de-Gier, Firminy, Saint-Just, Saint-Rambert ou Montbrison, la distribution est plus complexe, parce que s'il faut respecter les règles à des gestes barrières. On ne va pas faire un appel d'air à la population en disant venez en mairie récupérer vos masques sous peine de voir arriver 10 000 personnes le même jour. Donc c'est vrai qu'on a déjà anticipé la façon dont on allait probablement procéder à cette distribution pour ne pas mettre en danger la vie des gens, sachant donc que la distribution devrait commencer quelques jours avant le déconfinement et se réaliser dans les quelques jours qui suivent. Mais on aura également entre-temps les masques de Saint-Étienne Métropole. Donc a priori pour le 11 mai, nous devrions pouvoir avoir l'identité l'ensemble de la population sur notre territoire.
Bon, et nous ferons le relais de toutes ces informations quant à la distribution de ces masques. Monsieur Charvin, merci d'avoir pris un peu de votre temps pour répondre à nos questions. Bon courage et à bientôt.
Merci.
Au revoir.
Bien, merci. Bonne journée à vous.
Au revoir.